Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous qui nous suivez aux quatre coins du monde, merci d'être à l'écoute de cette édition du journal. Voici le titre. Les forces de défense et de sécurité de la RDC appelées à s'engager jusqu'au sacrifice suprême pour stopper l'avancée des rebelles du M23 vers la ville de Goma. Il y va de l'honneur et de la souveraineté de notre pays, indique le vice-gouverneur du Nord Kivu dans son message adressé ce dimanche. La province du Maïndombé ne dispose pas des routes bien construites ou asphaltées, à l'exception de quelques centaines de mètres à Bendela et des routes en terre battue. Le gouverneur Lebon Kosso appelle de toute urgence le gouvernement central à soutenir la modernisation des routes pour stimuler le développement de la province. L'Office national de transport Onatra annonce la reprise imminente du trafic du train urbain à Kinshasa, ce qui pourrait réduire les embouteillages selon le directeur du chemin de fer urbain, Georges Kouki, demande aux habitants ayant construit près des rails de déguerpir. Il est notre invité. Tout d'abord, cette information en provenance de New York. La sous-secrétaire générale des Nations Unies en charge des affaires humanitaires, Joyce Souya, exhorte les membres du Conseil de sécurité et tous les États membres à user de leur influence pour mettre fin aux hostilités dans l'Est de la RDC. Lors du Conseil d'urgence de sécurité tenu ce dimanche à New York, elle a martelé que l'ampleur des souffrances en RDC requiert une attention urgente. Elle a également insisté sur le fait que le sort des femmes, des hommes et des enfants de ce pays ne doit pas être ignoré. Un extrait de cette exhortation de la sous-secrétaire générale en charge des affaires humanitaires nous est proposé ici par Billy Yvan Lutumba.
J'exhorte le Conseil et ses membres à peser de tout leur poids pour s'assurer que le droit international humanitaire soit respecté par toutes les parties. Les civils doivent être protégés. Les sites de déplacement des civils et les infrastructures médicales doivent être protégés. Un accès humanitaire sûr, rapide et sans entrave à ceux qui sont dans le besoin doit être garanti. Alors que nous entamons l'année et que de nombreuses sources de financement sont indisponibles ou retardées pour différentes raisons, un financement adéquat et durable est nécessaire pour permettre l'action humanitaire d'urgence. Face à l'ampleur et la gravité de la situation, nous avons mobilisé 17 millions du CERF pour procéder à des interventions vitales immédiates. Toutefois, que les choses soient claires, des ressources supplémentaires sont urgemment nécessaires.
Sachez aussi que la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, confirme l'entrée des troupes rwandaises sur le sol congolais ce dimanche 26 janvier en passant par le borne 12 et 13 à Gisenyi. Elle s'est exprimée devant le Conseil de sécurité. Pour la ministre, cette attaque directe du Rwanda constitue une déclaration de guerre frontale qui ne se cache plus derrière des artifices, mais elle rassure qu'à Goma, les soldats des FARDC appuyés par les casques bleus et de la force de la SADC défendent la ville sur tous les fronts. À Goma toujours, le militaire congolais et tout le service de sécurité sont appelés à s'engager pour stopper l'avancée de rebelles du M23 vers Goma. Cet appel urgent a été lancé ce dimanche par le vice-gouverneur du Nord Kivu. Écoutons le commissaire divisionnaire Ekuka Lipopo dans cet extrait proposé par Grace Amzati.
Sur instruction du président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, tous les militaires, policiers, volontaires pour la défense de la patrie et autres agents des services de l'ordre et de sécurité de la garnison de Goma sont consignés et engagés armes à la main dans le combat pour la défense de la ville et donc du pays en entier. Et cela, chacun sous le commandement de sa hiérarchie. Il y va de l'honneur et de la souveraineté de notre pays. C'est pour cela que j'appelle donc tous les concernés à demeurer vigilants, combatifs et déterminés à défendre la patrie en général et la ville de Gaumont en particulier, afin de repousser avec énergie l'agresseur rwandais jusqu'au sacrifice suprême, la patrie ou la mort.
Pendant ces temps, la situation reste volatile autour de la ville de Goma ce dimanche soir après des violents combats dont la matinée sur deux fronts. Selon nos sources sur le front nord, l'armée et ses alliés ont repoussé une tentative des rebelles du M23 d'avancer vers Goma en débordant du côté du village Kierou près des bornes frontières 12 et 13 à des dizaines de kilomètres au nord de Goma. Une accalmie relative est observée de ce côté malgré quelques tracasseries des hommes armés sur le front ouest. Les combats qui ont commencé à 4 heures du matin ce dimanche se poursuivent. Certaines sources sécuritaires indiquent que l'armée continue de tenter de repousser le M23 de la barricade de Moubambiro. Au sud Kivu, la situation reste relativement stable sur la ligne des fronts au nord du territoire de Kalehe. La progression de rebelles du M23 vers le sud a été temporairement arrêtée par les FARDC à Mukwija. Cependant, les rebelles contrôlent la zone littorale, entravant la navigation des embarcations sur les lacs. Comment la population des Calais vit-elle cette situation? Réponse dans ce reportage de Jean Kassami.
La population du territoire de Kalehe est dans le dilemme, bien que soulagée par la bravoure des FRDC qui ont stoppé la progression des rebelles.
Les rebelles étaient déjà au niveau de Mukwija, Karango. Miabibu et Mukwija, c'est 14 kilomètres, mais si ce n'était pas les Wazalendo avec les militaires, les M23 seraient déjà à Kavu.
Les porte-parole des opérations Sukola 2 Nord-Sud Kivu, le sous-lieutenant Meya, rassure que les FRDC ne laisseront pas l'ennemi pénétrer entièrement la province du Sud Kivu.
Pour le moment, les FRDC mettent déjà moyens et dispositions en vue de repousser et pourchasser l'ennemi.
Les habitants de la partie du territoire sous contrôle M23 sont asphyxiés. Niabibwe, à mi-chemin entre Bukavu et Goma, est encore sous contrôle des FRDC. Mais là aussi, la vie n'est pas rose. Maître Archimède Karebwa, administrateur assistant de Kalehe.
Nous sommes en train de dénoncer avec véhémence les comportements de certains éléments incontrôlés des FRDC. La population de Niabibwe est en train de fuir. C'est pas parce que l'ennemi a pris. Niabibwe devient aujourd'hui invivable.
Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Le secrétaire général des Nations Unies exprime sa profonde préoccupation face à l'escalade de la violence dans l'est de la RDC et condamne fermement l'offensive en cours du groupe armé M23 soutenu par les forces rwandaises de défense et leur avancée vers Goma au nord Kivu. Dans une déclaration faite ce dimanche, Antonio Guterres a indiqué que, au cours des dernières 48 heures, deux casquets bleus sud-africains de la MONUSCO et un casquet bleu uruguayens ont été tués dans l'accomplissement de leur mandat confié par le Conseil de sécurité. Grâce à Mouzati pour les détails.
Outre les soldats décédés, 11 autres casques bleus ont été blessés et reçoivent des soins à l'hôpital des Nations Unies à Goma, précise le secrétaire général. Il rend hommage à la bravoure de tous les casques bleus des Nations Unies dans l'accomplissement de leur mandat visant à protéger les civils et à les défendre contre les violences perpétrées par les groupes armés en coordination avec les forces armées congolaises FARDC et la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe en RDC, SAMI-RDC. Le secrétaire général rappelle à toutes les parties au conflit les obligations qui leur incombent en vertu du droit humanitaire international. Il rappelle que les attaques contre le personnel des Nations Unies peuvent constituer un crime de guerre. Il appelle ainsi les autorités compétentes à enquêter sur cet incident et à traduire rapidement les responsables en justice. Le secrétaire général réitère son appel à respecter l'accord de cesser le feu. Il appelle le M23 à cesser immédiatement toutes les actions hostiles et à se retirer des zones occupées. Il appelle en outre les forces rwandaises de défense à cesser de soutenir le M23 et à se retirer du territoire de la RDC. Antonio Guterres réaffirme le soutien des Nations Unies au processus de Luanda et appelle à une reprise immédiate des négociations dans ce cadre.
Toujours en lien avec le combat au nord Kivu, tous les sites de déplacés à Kibati et Munigi dans les territoires de Nyiragongo se sont vidés ce dimanche matin. Les affrontements entre le rebelle du M23 et les forces armées congolaises et leurs alliés se rapprochent de la zone. Le président de déplacés plaide pour un élan de solidarité envers ses habitants contraints de fuir à nouveau. Théo Moussekoura, dans ses propos recueillis par Bernard Nyangi.
Ici, la situation se détériore. Tous les déplacés pris de panique fuient à présent car les crépitements des balles sont intenses. Là, ils jugent bon de se diriger vers Goma. Tout Kanyaruchinya se vide vers Goma. Je demande aux ONG humanitaires et notre gouvernement de nous entraider pour orienter les déplacés, les réinstaller dans les écoles, dans les églises, pour leur éviter des accidents ou perdre les enfants. C'est celle-ci la situation de Kanyaruchinya ce dimanche matin.
Sécurité toujours dans les territoires de Beni. Au moins une dizaine d'agriculteurs ont été enlevés samedi lors d'une nouvelle attaque attribuée aux rebelles des ADF dans leurs champs à Vemba, Malolou et Zahir, trois villages de Mayangos situés à une dizaine de kilomètres de la ville de Beni, selon la société civile locale, ce qui cite donc un rescapé blessé. Ces personnes enlevées n'ont pas répondu à l'appel ce dimanche. Les fouilles se poursuivent actuellement dans la région pour tenter de retrouver ces agriculteurs, indiquent nos sources. Nous les disions dans le titre, la province du Maïndombé ne dispose pas des routes bien construites ou asphaltées, à l'exception de quelques centaines de mètres de Bendela et de routes en terre battue. Le gouverneur de la province, Lebon Koso Kevani, considère cela comme un défi majeur qu'il compte relever durant son mandat. Cependant, il attend le soutien du gouvernement central pour moderniser les routes du Maïndombé et ainsi stimuler son développement. Écoutons le gouverneur Koso Kevani au micro d'Irène Mboma.
Je crois que c'est un défi énorme. Le Maïndombé n'a pas de route asphaltée. Bon, il y a eu quand même une route bétonnée, hein, ici à Inongo, par mon prédécesseur. Il y a quelques 800 mètres à Bendela d'asphalte, mais bon, dans l'ensemble de la province, en tout cas, il n'y a pas d'asphalte. Je crois que c'est un défi. Je pense bien que je ne terminerai pas mon mandat sans pour autant qu'on puisse avoir ne fût-ce que quelques kilomètres de routes asphaltées. Et nous comptons beaucoup plus sur le gouvernement central, parce que il y a toujours eu des lignes budgétaires en ce qui concerne le Maïndombé pour les routes, mais jusque-là, donc, rien n'a été fait. En fait, avec la voirie de la ville d'Inongo, nous avons d'abord commencé avec de la territe, hein, parce qu'il y en a ici de très bonne qualité. Et avec l'appui de l'OVD, nous avons essayé un peu de poser de la territe dans certaines artères de la ville d'Inongo. Et ça a quand même très bien donné. Et nous allons continuer dans cet élan jusqu'à ce que nous aurons quand même des moyens conséquents pour l'asphalte.
Dans les territoires de Beni, la région agricole de Ntoma est de nouveau reliée aux autres entités du secteur de Rouenzori depuis jeudi. Il y a 6 mois, le pont sur la rivière Boutaou avait été emporté par les eaux de pluie. Ces nouveaux ponts en bois construits par les habitants met fin au calvaire de la population qui devait parcourir de longues distances pour évacuer des produits agricoles. La société civile locale salue l'engagement de la population pour le développement de la région. Maleki Moulala, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise du secteur de Rouenzori, explique au téléphone de Marc Marofimbo.
La population, soit la communauté, avait initié des travaux communautaires dans le but de jeter un pont de 13 mètres sur la rivière Boutaou. C'est pourquoi la population avait décidé elle-même de contribuer, soit de cotiser par maison ou soit par champ pour que ce pont soit jeté. C'est ici où nourrit plusieurs citoyens. Nous sommes venus juste appuyer les efforts de la population, les efforts de la communauté locale et sensibiliser la communauté pour s'approprier ces travaux. C'est un pont qui aide plusieurs citoyens, surtout plusieurs agglomérations sont nourries à travers Ntoma. Il y a tant de gens qui quittent Beni pour cultiver Ntoma. Il y a des gens qui quittent Kasindi, il y a des gens aussi qui quittent Lume, il y a aussi les gens de Butembo, de Bachou, de Mutuanga, de Bulongo, les gens de Mangina, même les gens d'Owicha. Beaucoup de monde viennent ici, c'est une telle riche. Plus de 9000 personnes sont ici seulement pour l'agriculture.
Maleki Malala appelle le gouvernement et les personnes de bonne volonté à remplacer ce pont en bois par un pont durable comme le souhaite
la population. Dans la province du Maniema, la Croix-Rouge Maniema, par l'intermédiaire du ministre provincial de la Santé, a lancé samedi 25 janvier le travaux de construction du bâtiment qui abritera l'Institut supérieur des sciences et de santé de la Croix-Rouge. Ces travaux seront financés par la Croix-Rouge elle-même. Son directeur provincial appelle à l'implication de tous pour la réussite de ces travaux qui visent à améliorer la qualité de la formation et à venir en aide aux personnes vulnérables. Eléazar Kakwala explique au micro de Florence Kizalunga.
Nous avons pensé construire ces bâtiments pour l'encadrement de la jeunesse parce que vous savez, la Croix-Rouge n'a pas que les activités des urgences, aux activités humanitaires. Nous avons aussi les activités de la formation de la jeunesse par des enseignements supérieurs et universitaires. Donc, la Croix-Rouge a créé, depuis le niveau national, cette activité et nous avons des instituts supérieurs de sciences de santé à travers toute la République, à l'occurrence aussi le Maniema. Alors, nous n'avons pas nos propres bâtiments. Nous disons, nous devons oser, nous devons commencer. Voilà pourquoi nous avons commencé par la pose de la première pierre par le ministre et dans les jours qui viennent, nous allons devoir commencer les travaux proprement dit. C'est le financement propre, ce sont les moyens propres de la Croix-Rouge. Nous avons besoin d'aide, mais nous avons rêvé et nous pensons que avec Dieu et le concours de tous, nous y arriverons. Aux autorités politico-administratives, nous demandons leur accompagnement. Notre premier partenaire, c'est le gouvernement de la République démocratique du Congo parce que nous sommes auxiliaires des pouvoirs publics. Nous visons la formation, la qualité de la formation, mais aussi venir au secours des vulnérables.
Dans les territoires de Banza Ngongo, au Congo central, l'école primaire Mbanza, dont les bâtiments scolaires avaient été détruits par la pluie du 20 novembre dernier, vient de recevoir 100 nouveaux pupitres blancs. Ce geste posé par le gouvernement provincial vise à soutenir la gratuité de l'enseignement. Le sous-préfet de Banza Ngongo 1 salue cette initiative, mais demande à l'autorité provinciale de continuer ses efforts car le défi auquel cette école fait face aux sont énormes. Alphonse Sintumvanga appelle également d'autres partenaires du système éducatif à soutenir cette école. Écoutons ces propos recueillis par Nana Plurich Mambou.
L'EP Mbanza, une école primaire non conventionnelle de la sous-division provinciale de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté de Mbanza Ngongo 1, province éducationnelle du Congo central 2, qui a été sinistrée depuis le mois de novembre passé et qui a bénéficié de 3 tentes de secours dont de l'UNICEF, vient aujourd'hui de bénéficier de 100 bancs dont du gouvernement provincial du Congo central. Nous disons merci à M. le gouverneur qui a tendu une oreille attentive aux jeunes apprenants de notre juridiction qui ont eu des difficultés énormes pour apprendre, pour rester à l'école parce qu'ils étaient presque à même le sol pendant beaucoup de temps et sous le soleil. Par la même occasion, nous profitons de demander secours à d'autres partenaires pour la construction du bâtiment scolaire qui a été sinistré. Que les autres partenaires emboîtent les pas de son excellence, monsieur le gouverneur, pour l'ajout, par exemple, de bancs, construction du bâtiment scolaire, parce que l'école est fréquentée par 934 élèves.
Actualité internationale.
Au Gabon, la révision de la liste électorale prend fin vendredi prochain. Le code électoral adopté par les deux chambres du Parlement vient d'être promulgué par le président de la transition, Brice Clotaire-Oligui Nguema. Hier samedi, le ministre de l'Intérieur a pris la parole pour expliquer le nouveau code, mais aussi apporter des explications sur l'organisation anticipée des élections présidentielles le 12 avril prochain au lieu du mois d'août. Comme annoncé dans le chronogramme initial de la transition. Le chronogramme était à titre indicatif, a affirmé le ministre Herman Imolgot, soutenant que l'exécutif a ressenti un besoin de vite sortir de la transition et de retrouver un ordre constitutionnel normal. Des raisons économiques ont aussi motivé le choix de la date du 12 avril, a ajouté le ministre de l'Intérieur. Tant que l'ordre constitutionnel n'est pas rétabli, beaucoup de portes nous sont fermées, a-t-il avoué. Or, actuellement, le Gabon connaît des tensions, des trésoreries.
L'invité.
Notre invité aujourd'hui est Georges Fouki, directeur du chemin de fer urbain à l'Office national de transport ONATRA. Nous discutons de la reprise du trafic du train urbain à Kinshasa. Georges Fouki lance un avertissement clair. Ceux qui ont construit sur ou près des rails devront déguerpir sans délai. Il affirme avec conviction que la solution aux embouteillages de Kinshasa réside dans le service de l'ONATRA. Ne manquez pas cette entrée exclusif avec Blaise Shindani Kambala.
Monsieur le directeur des chemins de fer urbains, Georges Fouki, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Dites-nous, monsieur, quel état des lieux dressez-vous au chemin de fer urbain dont vous êtes le directeur?
L'état des lieux, pour le moment, c'était vraiment catastrophique, mais pour le moment, nous sommes en train de réhabiliter le chemin de fer par rapport à la demande du chef de l'État. Nous réhabilitons la voie aéro, nous avons déjà avancé. Nous réhabilitons la voie gare centrale Kitambo. On a déjà commencé à la gare de Kitambo. Quand vous allez là-bas, vous verrez les travaux sont déjà là. Donc, l'état des lieux, pour le moment, s'avance.
Parlons maintenant de la reprise, du trafic urbain. Est-ce que la demande de l'ONATRA de faire déguerpir la population riveraine des rails est-elle réaliste?
Nous ne demandons pas à ces gens-là de quitter, mais nous demandons à ces gens-là de libérer notre voie ferrée. Parce que ce n'est pas les locataires de l'ONATRA. Nous avons réhabilité, nous sommes dit, nous recommençons notre voie. Donc on doit faire les trains sur cette voie-là. Tout celui qui a construit sa maison sur la voie, lui-même il est conscient. Donc quand le train arrive, nous annonçons seulement que, messieurs, préparez-vous de quitter. Avant qu'on aille là-bas, on va les préaviser comme dans tous les états normaux.
Au cas où ils opposeraient une résistance, que ferait l'ONATRA?
Il ne peut pas résister, il ne peut pas s'opposer parce que là, il s'oppose avec l'état congolais. La terre et le sous-sol appartiennent à l'État congolais. Cette voie-là, c'était le voie de train urbain pour l'État congolais. Donc, s'il est fort contre l'État congolais, là, il reste. Mais je sais que tout le monde est sous la loi. Il doit respecter la loi congolaise.
Monsieur le directeur, la plupart des occupants de ces espaces demandent un soutien financier ou un autre espace pour lotir. Qu'est-ce que l'ONATRA pense de cette proposition?
L'ONATRA n'a pas de contrat avec ces gens-là. Ces gens-là, ce sont des envahisseurs, des squatteurs. Alors, c'est lui-même qui a squatté, qui est venu sur la voie, que l'ONATRA ne connaisse même pas son dossier. Peut-être, c'est l'État congolais qui va s'en charger, pas l'ONATRA. Donc, l'État congolais, le propriétaire de cette entreprise, qui va s'en charger.
Oui, à vous entendre, les travaux ont déjà commencé, mais est-ce que vous pouvez nous dire, monsieur le directeur, à quel moment peut intervenir les travaux et comment cela se prépare?
Nous avons déjà commencé. Vous pouvez descendre sur le terrain. Au moment que je vous parle, je descends pour la gare Kines jusqu'à l'aéroport. Je descends maintenant avec la drésine. Donc nous avons déjà commencé. C'est lui qui s'occupe de ces terrains-là. C'est lui qui est riverain, qui n'a pas respecté la distance de la voie par rapport à nos instructions. Il n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Mais nous sommes déjà avancés. Je ne peux pas vous donner quand est-ce qu'on va faire, quand est-ce qu'on va dire. Mais nous sommes en train d'avancer.
Ok. Et ces travaux vont durer combien de temps?
D'ici des mois, nous serons à la gare de Tchouenke. On va virer la locomotive pour la clientèle congolaise.
À quand la reprise des trains centre-ville-aéroport, centre-ville Kitambo-magasin, comme vous avez promis?
Pour la gare de Kitambo, nous sommes en train d'abord de construire les ponts qu'on avait cassés, le pont Bralimala. Dès qu'on termine ces ponts-là, directement, nous sommes là. Donc, le temps, ce sont les ingénieurs qui vont nous dire quand est-ce qu'ils vont terminer la construction de ces ponts. Pour l'aéroport, comme je viens de vous dire, on est déjà avancé. Pour les trains Irubé Kasangulu, chaque jour, ça rose. D'ailleurs, on fait 6 tours par jour pour essayer de dégager la population congolaise qui souffre pour le transport.
Parce que les embouteillages, ils sont monstres, les gens comptent sur l'ONATRA. Est-ce que vous avez vraiment des voitures en bon état qui vont desservir la ville de Kinshasa et même Kasangulu?
La direction générale s'est préparée déjà. Au moment que je parle, nous avons plus ou moins 6 voitures motorisées qui est à Matadi déjà. D'ici là, ça va venir ici. Avec ce que nous avons, on va ajouter. Mais il faut que nous demandions que l'État congolais doive ajouter, on doit ajouter plus ou moins 30 voitures encore. À ce moment-là, on va faire même 10 tours par jour. Et puis, l'État va nous aider pour acheter des locomotives. Les voitures, c'est bon. Mais les locomotives coûtent 3 500 000 $ par une locomotive. Si l'État congolais nous aide pour avoir ne plus que 10 locomotives, vous verrez ce qui va se passer, Kitambo, aéroport, et tous ces taxis qui font de n'importe quoi, ils vont déchanter d'eux-mêmes.
Monsieur le directeur de chemin de fer urbain, Georges Fouki, je vous dis merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Georges Fouki s'est entretenu avec Blaise Chindani. Comme à la fin de ce journal sur Radio Kapi, Billy Landry-Betou à la mise en onde, Jude, Mister Bilanda à la coordination et Gisèle Cage à la présentation. C'était un plaisir de vous informer. Merci de votre fidélité et passez une agréable soirée.